veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu va commencer.
Donc Alexandre Langlois, 38 ans, et j'habite à côté d'un petit village qui s'appelle Rochefort-en-Terre, et sinon, je travaille en région parisienne. Les premiers souvenirs, c'était plutôt des séries télé, des dessins animés qu'on avait sur les écrans quand on était plus petit. Et je garde un souvenir où on jouait souvent aux policiers, aux voleurs, dans les cours d'école. Donc ça, c'est les premiers souvenirs que j'ai du métier. Pendant mes études, je travaillais la nuit en tant qu'agent de sécurité et je cherchais une vocation pour défendre l'intérêt général. Et j'étais avec un autre collègue qui, lui, est rentré dans la police un an avant. Et c'est en discutant avec lui qu'on a vu, tiens, il m'a dit, oui, c'est pas mal. Et j'ai dit, oui, effectivement, ça permet de servir l'intérêt général, t'as raison. Et je veux aussi passer le concours. J'étais le premier policier de la famille et depuis, mon petit frère qui est rentré dans la police. Je suis affecté donc en 2010 dans les Yvelines. Du coup, j'ai commencé dans le renseignement. Ma mission principale, c'était de m'occuper du secteur économique et social. Le gros du travail, c'était d'être en contact avec les associations, les syndicalistes, les chefs d'entreprise et les élus en tant que maire, parce qu'ils sont également chefs de service, pour que si un jour il y a des manifestations, que le jour J, on connaisse tous les acteurs de la pièce et de se dire, comment on organise pour que ça se passe bien pour tout le monde. La confiance, ça se crée au fur et à mesure des années. Et donc, mon travail, c'était de garder ce lien, de tisser ce lien, et pour que si un jour il se passe quelque chose, on ait les bons contacts. Et ça s'est bien passé. Puis après, j'ai posé une question un jour. Je me suis dit, on est quand même dans un service de renseignement au 21e siècle. Et du coup, on n'a pas de téléphone portable. Et c'est quand même gênant pour nos contacts. Soit on donne un numéro de fixe, soit notre numéro personnel. Donc j'ai dit, au bout d'un moment, soit vous nous payez une partie de notre forfait, soit vous nous donnez un numéro de téléphone, ce qui sera plus adéquat. Et la réponse qu'on m'a dit, c'est non, vous n'êtes qu'une ligne budgétaire. Et la ligne budgétaire des cartes de visite et des téléphones portables, c'est pour les commissaires, c'est des frais de représentation. Vous n'en avez pas le droit. Sur les manifestations, je croisais des gens de la CFDT, de la CGT, enfin voilà. Et en discutant, ils m'ont dit, tiens, on va t'appeler secrétaire général de la CGT Police. Bon, écoutez, appelez, je verrai bien au point où j'en suis. Moi, je voudrais mon téléphone et mes cartes de visite. Je voulais pas faire de politique et dans la famille où j'étais, on me disait, la CGT, c'est le parti communiste, etc. Donc je me dis, je vais voir, j'espère que c'est que du syndicalisme. Et j'ai bien fait parce que on a obtenu les cartes de visite, on a obtenu les téléphones. C'est comme ça que je suis rentré dans le syndicalisme. La CGT, c'est pas courant. D'ailleurs, moi, je savais pas qu'il y avait une CGT police avant que je les rencontre. Des fois, déjà à l'époque, quand je disais que j'étais policier, des fois, il y a des gens qui disaient « Ah, c'est bien », d'autres qui me disaient « Ah, c'est nul ». Et à l'inversement, je disais « Je suis aussi syndicaliste à la CGT ». Là, du coup, j'avais les réactions souvent inverses. L'évolution de la police, je l'ai vécue en partie sur ce que j'ai vécu dans mon service. Suite aux attentats du 13 novembre, il y a eu un remue-ménage de communication de la part du ministre. C'est-à-dire qu'on devait faire des perquisitions dans tous les sens, des perquisitions administratives. Donc mon service était en première ligne parce qu'on était dans le renseignement. Sauf que le ministre avait demandé de la quantité. Toutes les semaines, je veux tant de perquisitions à faire. Et on s'est retrouvé avec des commissariats ou d'autres des services judiciaires qui ont profité de ces perquisitions pour boucler des affaires. Je me suis dit, mais on détourne nos missions, on détourne nos moyens, mais moi j'ai pas signé pour ça. La même chose également avec l'état d'urgence qui avait été voté en 2015. Ça a été vendu pour lutter contre le terrorisme. On a assigné à résidence des militants écologiques pour pas qu'ils viennent perturber la COP21 qui se déroulait en France. C'est toutes ces dérives, on fait des lois, mais qui sont appliquées pour justement un contrôle politique ou social de la population. Tout ça, je l'ai vécu de plein fouet et je me suis dit, moi je me reconnais pas, je veux pas faire du renseignement pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les notes de renseignement qu'on fait servent à mettre des snipers, grosso modo, pour faire un baltrap à coup de LBD. J'ai mal vécu le détournement de sous ces services. Là, on est arrivé au moment où je pense qu'on ne peut plus réformer la police de l'intérieur, parce que tout a été verrouillé, IGPN, le nouveau code de déontologie. Il restait une dernière chose, c'est les images et les enregistrements pour prouver certaines dérives au sein de la police nationale. Et ça a été interdit. C'est ce qu'ils voulaient faire avec leur article 24. Et là, je me suis dit, ben, en fait, les derniers moyens de preuve sont finis, parce que même en interne dans la police nationale, il y a des histoires de racistes qui ont pu sortir que grâce à des enregistrements et des vidéos et grâce à l'appui de la presse. Je me suis dit, il faut que je parte. Et quand je pars, je dis, c'est bien réformer la police nationale qui pose problème, parce qu'il y a plein de collègues qui sont magnifiques à l'intérieur, mais qui doivent aujourd'hui malheureusement faire un choix entre leur conscience professionnelle et la peur de leur hiérarchie.
Je m'ennuyais beaucoup et je cherchais souvent une voie, une débouchée, un travail que je pourrais faire après mes études. Et je voyais à la télévision qu'il y avait des reportages sur la police, qui fait un peu briller les yeux, où on voit des gens qui ont l'air de faire quelque chose d'utile, quoi. Et puis, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Et puis vient le moment de la formation et c'était vraiment un moment assez sympa en vrai. Mais je posais parfois des questions qui pouvaient faire sourire. Par exemple, je me souviens que un brigadier nous avait fait une leçon sur la loi et il nous avait expliqué que il ne fallait pas voler parce que la loi l'interdisait. Et je lui disais, d'accord, mais si par exemple dans le cas de Robin des Bois, la morale c'est que parfois il est légitime de voler aux riches. Je dis le mot Robin des Bois et forcément ça déclenche le rire dans la salle, c'est un peu hors de propos quoi, c'est pas la question, on n'est pas là pour philosopher sur la morale, enfin sur le vol en soi quoi. Mais quand même, je m'étais posé la question et il y avait peu de place à la réflexion en fait, ça n'intéressait personne. Et donc oui, je me sentais pas comme les autres, mais ça m'allait en fait. Moi je me disais que j'allais faire mon travail, que j'allais être bien, et puis vient la fin de la formation. Et j'étais plutôt bien classé, donc je décide, parmi d'autres choix, d'aller dans la brigade des réseaux ferrés. Et donc je suis affecté à la gare du Nord. Premier jour, Bon, déjà beaucoup de fierté en fait, de marcher avec les Rangers. Et puis je me suis dit, allez, on va y aller quoi. Ça y est, ça, les portes s'ouvrent quoi. Donc, les portes s'ouvrent, mais elles se sont ouvertes sur quelque chose qui m'a surpris en fait. Les premiers jours, je me dis, il y a un problème en fait. Je me suis dit, je me suis trompé d'endroit. Enfin, c'est pas ça ce qu'on m'a vendu en fait. Je me suis fait avoir quoi. Alors il y avait dès 6h30 du matin, il y avait les SDF à déloger. Mais pareil, enfin quel intérêt d'aller déloger des SDF quoi, qui dorment dans la gare et c'est ridicule. On va pas les donner des coups de pied dans les chaussures d'un SDF pour lui dire de se réveiller parce qu'il est 6h30 et parce que la classe moyenne commence à bosser. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y avait aussi les contrôles au portique RATP. Voilà, il y a des gens qui fraudent et puis on les met sur le côté, on fait un contrôle d'identité, puis on les fait sortir de la gare. Ça fait pitié quoi. Franchement, pourquoi faire quoi. Enfin, moi je suis jeune, j'ai envie qu'on échange, j'ai envie qu'on fasse du réseau, qu'il y ait du travail en coopération. Dans la gare du Nord, il y a tellement de choses à faire qui seraient bénéfiques. Puis au fur et à mesure où le temps passe, je me dis rien ne s'arrange. Dans ma brigade, qui était majoritairement présent, c'était des personnes qui avaient plus la niaque, quoi. Elles y croyaient plus en leur métier. Elles avaient plus la fougue de la jeunesse que moi j'avais, en fait. Et eux, ils en sont plus au rêve, en fait. Et moi, j'arrive, c'est presque insolent, en fait, pour eux. Concrètement, bah, c'est le fait de rester dans les locaux. C'est le fait de faire des stratégies pour arriver à prendre des pauses. Il y a une pratique qui s'appelle le shoot de plainte. Ça consiste à trouver un prétexte pour ne pas accepter de prendre une plainte. C'est un vrai sport, hein. Et s'ils prennent pas de plainte, c'est parce qu'ils veulent pas travailler, en fait, ils veulent pas prendre le temps de s'installer devant un ordinateur, d'écouter quelqu'un parler, de faire les procédures. Donc, sur le moment, j'ai de l'amertume, en fait, je me dis, mais pourquoi ils agissent comme ça? Le métier, il est important, on a une responsabilité, il faut qu'on fasse les choses, à 6h30, prise de service, bah, on sort, enfin, voilà, enfin, allez, on se met au boulot, quoi. Je leur dis pas comme ça, mais c'est mon ressenti. Voilà, manque d'envie. Bon, comment on fait, quoi? Comment on fait à partir de là? Bah, on compense. J'ai vu des choses qui m'ont marqué, mais c'est toujours fait de manière entre guillemets intelligente. C'est-à-dire que c'est toujours à la limite en fait. Un soir, on sortait du commissariat, on avait pris un ou deux verres, on était pompettes, vraiment pas plus. Et il y a un collègue qui voit un SDF, on est en civil à ce moment-là, qui voit un SDF par terre, et puis il racle un molar, il lui crache dessus. Et je me souviens qu'un de mes collègues aussi, on contrôlait de temps en temps donc, les petites roms, et elles avaient souvent beaucoup de pièces sur elles, et un de mes collègues se servait une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Puis une idéologie raciste, quoi. Une idéologie qui vient en continuité justifier leur action. Enfin, il y a des références à Marine Le Pen qui sont constantes. Ils ont la sensation que quelqu'un de dur, quelqu'un de sérieux au pouvoir, quelqu'un qui prendrait vraiment les choses en main, qui a conscience des difficultés, arrangerait leurs problèmes. Moi, personnellement, à ce moment-là, je suis choqué, mais je dis rien, je dénonce pas, je fais comme les autres, je me dis que ça fait partie du paysage, quoi. Ils sentaient que je ne deviendrais jamais comme eux, mais ce qui nous a permis de survivre, je pense à eux comme à moi, c'était que moi j'étais quand même en train de devenir un peu comme eux. Quand moi je me mets à me poser des questions sur peut-être qu'il y a une partie de la population qui est plus violente qu'une autre, et peut-être que c'est lié à leur couleur de peau, à leur éducation, peut-être que c'est logique. Et donc oui, moi je commence à me poser des questions, et puis au niveau de la violence, je commence à être irrespectueux moi aussi. Je commence à mal parler aux gens, je commence à avoir moins de patience, à être irritable. Mais bon, quoi faire d'autre quand tous les jours on est dans la noirceur, quoi. Quand autour de nous, tout pue, quoi. Tout est atroce. Qu'est-ce qu'on en fait, ça?
Tell me your reason and your purpose. Why you point your gun to get me nervous? Look at me as a musician, no politician, no gunman. So why you point your gun? I don't understand. You must think me's a wanted man, Mr. Officer, officer. Put down your revolver, hey, Mr. Officer, officer. Put down your revolver, hey. Cause when you point your gun, my blood runs cold. Look now my face, oh my eyes just roll. Like a peasant that lost his soul. Right where me stand, I'm frozen cold. Mr. Officer, 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 put down your revolver. Yeah, Mr. Officer, 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 put down your revolver. Hey, me I beg you, sir, put down your revolver. You get me nervous, yeah. Point your gun to get me nervous. Look at me as a musician, no politician, no gunman. So why you point your gun? I don't understand, Mr. Officer, officer. Put down the revolver, hey, hey, Mr. Officer, officer. Put down your revolver, boy. Tell me your reason. Tell me your reason why you find your gun to get me nervous, to get me nervous. Hey, hey, officer, officer, put down the revolver. Hey, Mr. Officer, officer, put down the revolver.
Je m'appelle Fabien Billerand. J'ai 38 ans, je suis originaire de Carcassonne dans le sud de la France et j'ai exercé pendant 14 ans dans la police, dans un premier temps pendant 8 ans en commissariat à Colombes dans le 92 pour ensuite évoluer vers la brigade des stupéfiants de Paris. C'était pour une raison bien particulière, c'est que des amis, des proches sont tombés dans la consommation problématique de drogue, voire même dans le deal, y compris jusqu'au trafic international. Et disons qu'en tant qu'ami, je n'ai eu aucune influence. Et à partir du moment où j'ai décidé naïvement de rentrer dans la police, c'était pour interpeller les gros dealers, en partant du principe que si je coupais le robinet des dealers, mes amis ne pourraient plus se procurer de drogue et donc n'auraient plus de problème. Mon engagement dans la police, à partir du moment où j'ai passé le concours, c'était dans un objectif très précis, la brigade des stupes du 36 Quai des Orfèvres à Paris. Toutes premières instances, c'était à l'école de police. Une espèce de cérémonie sur la place d'armes où il fallait déjà rester au garde à vous en plein soleil. Donc moi j'avais pas l'habitude, au bout de 2 minutes je suis tombé dans les pommes. Donc ça avait bien commencé, mais je me suis dit voilà, ça va durer 1 an et ensuite ça va être différent. Et ça a été complètement différent effectivement, puisque dès mon premier jour, c'était donc à Colombes, ma première mission de police secours, c'était pour un jeune homme qui avait pris une balle dans la tête. Tout de suite j'ai été mis dans le bain de ce que je voulais faire, à savoir lutter contre tout ce qui pouvait avoir de violent lié au trafic. Et là où j'ai commencé à me poser des questions véritablement, c'est par la suite, quand j'ai évolué vers les services d'enquête, où là je me rendais compte qu'on nous demandait un volume de travail qui était démesuré par rapport à notre capacité. Mais aussi, le racisme dans la police, ça m'avait choqué de me dire, mais comment on peut tenir des propos qui sont en fait délictueux, comme les bicots, les bougnous, les négros. J'en ai appris beaucoup en fait dans la police que je ne connaissais pas avant. Ça fait partie, je dirais, de la sociabilisation policière. Surtout quand on commence à se retrouver un peu en groupe, où ce qui va être valorisé, c'est celui qui va se montrer le plus agressif ou le plus violent. Et tout ça, rajouté à des ordres qui paraissaient pas adaptés. Moi, quand je suis arrivé en commissariat là-bas, dès les premiers jours, on m'a dit « Moi, je préfère que tu m'interpelles 10 consommateurs plutôt qu'un dealer ». Et ça, c'était le discours de tous mes commissaires que j'ai eu au commissariat. J'étais particulièrement choqué et déçu de ce genre de propos. Mais je me disais « Bon, après tout, je suis encore en commissariat, donc... » je mettais de côté un petit peu toutes ces frustrations en me disant que ça irait mieux plus tard, ça irait mieux plus tard, ça irait mieux plus tard. 2016, c'est vraiment un point de bascule avec les policiers en colère. Il y a les événements de Viry-Châtillon, plusieurs policiers gravement brûlés, qui déclenchent spontanément la colère des policiers, donc des manifestations dans la rue. Et très vite, c'est pas juste Viry-Châtillon en fait qui est présent dans les revendications, c'est ras-le-bol des conditions de travail pourries, exécrables dans beaucoup de commissariats, un ras-le-bol de la politique du chiffre. Et c'est à partir de là, véritablement, que j'ai commencé à réfléchir et à me poser beaucoup de questions. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pris un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, j'ai écrit « policier en colère » dessus, et je l'ai accroché aux grilles du commissariat, en étant parfaitement conscient que ça allait être très mal vu de ma hiérarchie, mais qu'au moins, ils allaient me convoquer et qu'on allait pouvoir discuter. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau du commissaire qui n'a pas du tout apprécié qu'on remette en question sa propre autorité. Et derrière, j'ai été harcelé moralement pendant plus d'un an. J'avais une surcharge de travail supplémentaire. On me refusait des jours de congé, même quand j'avais travaillé 15 jours d'affilée, que j'étais épuisé. On m'a désarmé. Parce que ça permettait tout simplement de l'imaginaire de mes collègues de dire « Oulala, il n'a pas son arme, ça veut dire qu'il est suicidaire, ça veut dire qu'il a un problème. » Donc ça m'a isolé, je me suis retrouvé seul. Avec en plus une pression hiérarchique qui était telle que les gens avaient peur de me parler. Ou avaient peur de s'afficher avec moi dans la cour, dans la salle de pause, etc. Pour pas qu'il puisse leur arriver les mêmes choses. Mais ce qui m'a le plus profondément touché, c'est qu'ils me refusaient mes stages à la brigade des stupes. Donc il a fallu que je trouve d'autres biais pour pouvoir y accéder. Mais en tout cas, j'avais toujours cet objectif et cet idéal qui m'aidait aussi à tenir face à l'adversité et de ne pas me laisser abattre. Je fais directement la démarche, en tout cas, de solliciter la brigade des stupes pour dire « Voilà, j'ai un problème hiérarchique qui me bloque pour venir vous voir. Je suis très motivé pour venir intégrer votre service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi tout. » Et donc ça s'est fait... par cooptation, c'est-à-dire que plusieurs personnes de la brigade des stupes qui ont été amenées à me connaître ont dit « bon, lui, il vaut le coup, on va le recruter ». J'intègre la brigade des stupes donc en 2017, où là, je suis absolument ravi parce que c'est à la fois un soulagement de quitter Colombes avec toutes les péripéties des mois précédents et surtout un rêve qui se concrétise, quoi. J'avais des paillettes dans les yeux tous les matins, je montais les escaliers en courant, etc. J'avais une heure d'avance, je repartais une heure après. Enfin, je veux dire, voilà, j'étais enfin dans l'endroit où je voulais être. J'adorais notamment tout ce qui était discussion autour des stratégies d'enquête pour savoir comment on allait mettre en place les surveillances, comment on allait trouver les moyens de récolter les preuves. Et ça, c'était absolument passionnant. J'imaginais parfaitement faire beaucoup d'heures, être très adaptable par rapport aux horaires des dealers notamment, puisque eux ne font pas du 9h-18h. Donc tout ça, je me l'étais très bien imaginé. Par contre, ce que j'avais pas imaginé, c'est qu'à la brigade des stupes, on faisait aussi de la politique du chiffre.
Yeah. Jean-Marc, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis rentré dans la police en 1991, après mon service militaire. J'ai fait une 20aine d'années en CRS, puis après j'ai été affecté en commissariat de police. J'ai commencé à la sortie de l'école en CRS. Pour moi c'était une chance, puisque c'était quand même un corps qui s'engageait sur le terrain. Il y avait toute cette camaraderie, c'était hiérarchisé et respectueux de la hiérarchie. Et puis il y avait ce côté aussi un petit peu bourlingueur. On pouvait partir du jour au lendemain, on recevait un coup de téléphone... Dans une heure, t'es à la compagnie, on part en Corse. J'ai beaucoup aimé. Donc j'ai quitté les CRS. J'avais fait un choix, c'était celui de me rapprocher de ma famille. Et j'ai pensé que je pourrais m'investir d'une autre manière dans un commissariat de police. Donc j'ai été affecté en brigade de roulement. J'étais adjoint d'une brigade. Et très rapidement, quand je suis arrivé... La hiérarchie s'est un petit peu servie de moi en m'affectant par la suite en tant que chef de brigade. On pourrait penser que je suis reconnu par mes compétences, c'est ce que j'ai cru. Sauf que on m'a envoyé au carton. Très rapidement, les effectifs se liguent tous contre moi. Des effectifs qui me répondaient « Ici, c'est le chef qui s'adapte au moule et pas le moule qui s'adapte au chef ». Ils ne se présentaient pas, par exemple, le matin à l'appel, donc je pouvais pas savoir qui était présent ou pas présent. C'est des fonctionnaires qui se déguisent avec des perruques, etc. Donc, il y a quand même un très gros problème comportemental. Il y a eu, une fois, 2 collègues féminines qui interviennent dans une grande surface et qui vont interpeller un voleur. Sur les ondes, elles demandent un renfort. Et personne ne se bouge. Et il y avait une fonctionnaire qui est en train de goûter, est en train de manger un yaourt. Et je lui dis, mais il faut tout de suite aller à tel endroit, porter assistance aux collègues et tout ça. Là, je suis en train de goûter, je finis mon yaourt. Et là, je me suis dit, non, c'est trop, quoi. Donc, ça a été, le début du calvaire. Après, lorsque vous tapez un petit peu plus du poing sur la table, là, ça a été des insultes. Tu fais ton petit chef de merde. Vous devez vous plier parce que vous êtes tout seul. Chaque aller au commissariat devenait de plus en plus difficile. Au début, c'était juste des petits maux de ventre, et puis des crampes. Vous dormez plus, vous n'arrivez plus à vous alimenter correctement. Moi, j'ai nettement senti une dégradation de mon état de santé, qui d'ailleurs m'a conduit à la somatisation de la maladie de Ménière. Vous avez tous les symptômes de l'ébriété. Vous perdez l'équilibre, c'est très inconfortable. Donc un jour au commissariat, je suis tombé dans les vestiaires, par terre, parce que j'avais été pris de nausées. Je suis quelqu'un qui est assez mal au dur, j'encaisse quand même beaucoup de choses, mais sauf qu'à un moment donné, c'est votre corps qui lâche, quoi. J'ai été en arrêt, et après, j'ai été placardisé sur différents postes, désarmé, enfin, etc. Donc je suis 10 mois au service des fourrières, ça se passe très bien. Je fais un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, comme j'ai pas de poste de travail, dans la cour du commissariat, j'avais remarqué qu'il y avait un monticule de vélos. Et bien, je me suis penché dessus pour pouvoir les restituer à leur propriétaire. Et j'ai nettoyé la cour du commissariat. Au bout de cette période d'une 10aine de mois, je suis convoqué par mon commissaire de police. Il me fait l'éloge du travail que j'ai fourni dans mon service, et puis il me propose d'intégrer un groupe d'intervention. Ça s'appelait Compagnie de sécurisation et d'intervention. Et donc, vous pensez bien que c'était une petite étoile dans le coin de mon œil qui s'est mise à briller, et j'ai dit oui. Mais malheureusement, au quotidien, les gens avec qui je travaillais, encore une fois... avait un fonctionnement qui leur était propre, et j'ai très rapidement dû faire face à des violences illégitimes sur une personne qui était menottée. On a été appelé en renfort de la BAC sur des gens qui étaient dans un pavillon en train de cambrioler. On arrive sur place, il y en a un qui essaie de s'échapper, il est interpellé par un personnel de la BAC. Mais il y en a toujours un qui est dans la nature. On cherche partout, on ne le trouve pas. Et d'un seul coup, j'ai mon chef de groupe qui dit « Il est là !» Il était juste à côté de nous.
il s'était accroupi, mais vraiment le jeu du chat et de la souris, quoi. Et puis, à ce moment-là, le jeune a commencé à recevoir des coups de pied au niveau du bassin. Mon chef de groupe l'a traîné sur plusieurs mètres à plat ventre pendant que l'autre continuait à lui asséner des coups de pied dans le bassin. Il y a eu, j'en sais rien, peut-être 8-10 mètres traînés comme ça sur le ventre. Mon chef de groupe l'a lâché et l'a frappé au visage pendant qu'il était menotté, etc. Là, j'ai ressenti un fort sentiment d'impuissance. Parce que je dois avouer que je savais pas quoi faire. Est-ce que je l'écarte? Est-ce que c'est moi qui vais être en confrontation? Le jeune homme, il a été passé à tabac, quoi. Mais sous les yeux de 10 policiers présents. Il avait, je crois, autour des 14 ans. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est tourner la tête. Et j'ai vu, sur ma droite, le jeune homme qui avait été interpellé et qui regardait son copain en train de se faire tabasser. Et... c'était dur, quoi, parce que vous vous dites « Ok, je dois protéger les biens des personnes, mais ça reste des gamins, quoi. Je veux dire, nous, on est des adultes. » Et le policier, dans sa procédure, a justifié, comme d'habitude, qu'il avait utilisé la force strictement nécessaire, ce qui était complètement faux. J'ai fini par prendre la décision d'aller voir mon commandant, qui, lorsque j'ai commencé à aborder le cas de mon chef de groupe, m'a dit... Monsieur, restez à votre place et arrêtez de faire des vagues. Please, officer, let me in. Nobody tell me go a station. You're troubling the wrong hey, man. Let me in. Can't you see I didn't do no wrong? From the day I've been moving around, I've always stayed out of trouble. Now you pull me over demanding a search. But listen, sir, I ain't got nothing. Please, officer, let go me. Nobody can me go a station. You're troubling the wrong hey, man. Let go me. Can't you see I didn't do no wrong? Please, officer, let go me. Nobody can me go a station, man. Hey officer, let go me. Can't you see I didn't do no wrong? If you wanna know where I'm coming from, ask me and I will tell ya. Just don't put your handcuffs on me. I wanna be free like a bird in the tree. If you wanna see my credentials, I've got enough and enough potential. Don't take me to the station. Don't tell my friends that I've done no wrong. Please, officer, let go me. Nobody can me go a station. You're troubling the wrong hey, man. Let go me. Can't you see I didn't do no wrong? Mr. Officer man, let go me. Nobody can me go a station, man. Hey officer, let go me. Can't you see I didn't do no wrong? Officer man, you're troubling the wrong man. Say from the day I've been moving around, I've always stayed out of trouble. Now you pulled me over demanding a search. But listen sir, I ain't got nothing. Please officer, let go me. Nobody can me go a station. You're troubling the wrong man. Let go me, can't you see I didn't do no wrong? Try and please understand. Let go me, nobody can me go a station man. Mr. Hey, officer man, let go me, can't you see I didn't do no wrong? And if you wanna know where I'm coming from, ask me and I will tell ya. Just don't put your handcuffs on me. I wanna be free like a bird in the tree. Don't take me to the station. Don't tell my friends that I've done no wrong, Mr. Please, officer man. Let go me. Nobody can me go a station man. Whoa, whoa. Hey, let go me. Can't you see I didn't do no wrong? Taking it the wrong officer, man. Let go me. Nobody can me go a station man. I've got them to do outside. Can't stay
Moi, à chaque fois qu'on voit des policiers, des collègues se faire massacrer, parce que c'est un massacre, sur Paris ou autre, quand on voit des collègues au sol qui se font lyncher, on est presque autant blessés qu'eux. Quoi. Ah oui. Moi, il y avait des fois, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Quand je regardais les infos, j'avais vraiment les larmes aux yeux, j'avais des frissons parce que j'arrivais pas à décrocher de la télé, parce que je m'identifiais par rapport à eux. On l'a vécu, nous, à petite échelle, sur Toulon, où on a eu aussi...
Il y a eu des moments où c'était chaud aussi, quand même, surtout.
Ça a été très chaud,
On a pris des mortiers qui sont passés à ça de nos têtes. Il y a eu des moments où c'était, comme il dit, à petite échelle, parce qu'il y avait moins de monde. Mais c'était aussi dangereux.
Est-ce qu'on va y passer ?
Vous vous posez cette question ?
Bien sûr.
Ah oui, ben, forcément, à un moment, ça traverse.
Le coup du mortier, c'est moi qui manque de le prendre en plein visage. Mmh. Donc j'ai juste le temps de me reculer, il impacte la vitre derrière... Ça casse la vitre, ça prend feu.
Ça prend feu.
Et on se dit, c'est.
Il est passé hauteur de tête. Ouais,
qu'est-ce qu'on fait
c'est quoi le truc quoi. Je suis en train de parler. Bon, ok, ils sont pas contents, ils ont le droit de s'exprimer. Il y a pas de problème. On commence à prendre des pierres. Là, ça me fait tiquer un peu. On n'a pas besoin de ça pour s'exprimer.
Pourquoi ?
Voilà. Pourquoi ? Nous, on n'y est pour rien. Mais en fait, on est déshumanisé par rapport parce qu'on a la tenue. On représente l'État. L'État, pour les gilets jaunes, certains les plus violents, est coupable de quelque chose.
Oui.
Donc, le seul moyen de toucher l'État, c'est de toucher un fonctionnaire de police. Donc, on représente
tout ce qui est uniforme.
Voilà, tout ce qui est uniforme.
Parce que les pompiers aussi, les gendarmes. Oui.
Donc, ça monte crescendo. Ça part de la pierre. Bon, la pierre, on va la prendre. On a des boucliers. On se débrouille. C'est pas gênant. Par contre, le mortier, la bombe agricole.
L'acide,
ça commence à être compliqué.
De toute façon, il y a des tabous qui sont tombés qui n'auraient jamais dû tomber. Moi, je ne suis pas rentré dans la police, alors je suis pas CRS, donc j'ai pas à faire du maintien de l'ordre vraiment en tant que CRS dans une manifestation. Mais vous croyez que je suis rentré dans la police pour me battre contre la population ?
Bien sûr que non.
Moi, je suis rentré dans la police pour arrêter des truands, pour arrêter des bandits, des voleurs. Et certainement pas pour me battre contre Monsieur Tout-le-Monde dans la rue. Et là, maintenant, on a passé un cap. On se prend des mortiers, des pierres par des gens qui ne sont pas des délinquants. Et qu'ils le deviennent en faisant cet acte-là. Mais on prend des pierres par nos voisins. C'est ahurissant. Et ça nous marque forcément. C'est,
même par certains membres de notre famille.
Oui, voilà, ouais. Donc, c'est ahurissant. On finit même par s'engueuler, entre guillemets, quelquefois, avec des propres membres de notre famille qui ne sont pas d'accord avec nous.
Qui sont qui du ont côté des idées gilets jaunes.
Différentes.
Ouais. Bien sûr.
Et on se fait harceler, on ne passe pas un repas.
Moi, j'ai connu des réunions de famille qui ont mal tourné parce qu'on était complètement opposés. Et ça a déjà...
Et ça, c'est nouveau. En fait, c'est le niveau de violence qui gêne tout le monde.
En fait, on se rend compte que toutes les personnes sensées qui ont compris que c'était repris par des groupes d'extrêmes extrémistes...
Récupérés.
Et la violence récupérée, on s'est rendu bien compte que tous ceux-là ont quitté le navire, en fait.
Ah, c'est clair.
Et ceux qui restent maintenant, malgré leur discours, en fait, ils veulent en découdre avec nous, et c'est tout. Maintenant, c'est de la contestation bête et méchante.
Et honnêtement, maintenant, c'est du temps perdu. C'est-à-dire que c'est samedi entier qu'on a perdu à travailler, être présent, à faire du maintien de l'ordre sous les gilets jaunes. Pendant ce temps, on n'était pas là. Ah, oui. Voyez, nous, par exemple, à la BST, notre job premier, c'est d'être dans les cités, de sécuriser les cités, les QRR. Mais pendant tous ces samedis, les samedis, que ce soit les bacs, les différents services,
il n'y avait plus
personne dans les cités. Et eux, pendant ce temps, ils faisaient leur bise, mais tranquillement. Ils savaient que tous les samedis, en matière de stup, c'était open bar.
Ah, ouais,
il n'y avait plus un flic dans les cités. Mais c'est exactement ça.
Ah, oui.
Ils faisaient des ventes, ils se regardaient.
Right by the beat. Stop. Yann Persuglio. J'habite en banlieue aixoise. J'ai été élevé par des parents dans un milieu modeste. J'avais un père qui était un peu dur, mais qui m'a inculqué des valeurs, et ces valeurs, c'était le bien, voilà, sans arrêt, le bien. Et quelque part, mon père, qui pour moi était quelqu'un de... C'était une montagne, hein, c'était quelque chose d'impressionnant. J'ai vite compris que le métier de policier, c'était un métier qui l'impressionnait. Donc j'ai toujours voulu faire ce métier pour impressionner mon père. Voilà. J'ai fait ce métier plus pour lui que pour moi, en fait. J'ai débuté en étant policier auxiliaire. J'avais 18 ans et demi, je crois. Et j'étais muté aux Ulysses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais les Ulysses, c'est uniquement des cités, du béton. Et pas de centre-ville. Le seul centre, c'est le centre commercial. Et quand vous avez 19 ans, que vous rentrez dans une voiture de police, c'était quand même en 1990, il faut savoir que le plus vieux dans la voiture avait à peu près 23 ans ou 24 ans. Et quelqu'un qui avait 24 ans, qui était chef de bord, c'était quelqu'un de sérieux, hein. C'était un ancien, en fait. Donc on intervenait sur tout, hein. Police secours, vous intervenez sur un braquage en cours, sur un accident, sur un suicidé, sur un meurtre qui vient d'être fait, sur tout ce qui se passe sur la voie publique, hein. Donc ça peut aller très loin. Après 10 mois de formation dans une école de police, on vous met de suite dans des banlieues avec des problématiques peut-être un peu compliquées, quoi. Après, moi, je venais de Marseille. J'étais pas un lapin bleu, on va dire. Mais vous prenez un jeune qui sort de Corrèze, qui a jamais rien vu, vous le mettez dans le 9-3, ça risque de lui faire tout drôle quand même. Les deux premières années à Paris, je me suis dit, tiens, c'est ça la police, c'est un peu bizarre quand même, je suis un peu tout seul face à tout ça là, ma hiérarchie elle est pas là pour m'aider, c'est bizarre, on me demande beaucoup, c'était sous l'époque Mitterrand, on nous demandait de faire des PV quand même, donc la culture du chiffre elle existait déjà à cette époque, et attention, on fait des PV sinon t'es pas titularisé. Et là, je me suis dit, c'est un coup pour rien, c'est peut-être Paris, c'est peut-être pas ton truc, tu vas aller voir un peu à Lyon ce qui s'y passe. Et puis bon, je commençais à comprendre qu'avec mes petits bras musclés, j'allais pas sauver la planète, même à Lyon. Parce que c'était la même histoire, c'était on vous demande beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc je me suis dit, tu vas aller voir Marseille, moi j'idéalisais Marseille, parce qu'en plus Marseille, là... Être policier à Marseille, c'était quelque chose. J'ai toujours été attiré par les faits divers, par la voyoucratie marseillaise, c'est la French Connection, tout ça. Je me languissais d'être confronté à ce banditisme, on va dire. Donc quand je suis arrivé à Marseille, j'ai fait un an de police secours. Ensuite, j'ai intégré un autre service qui s'appelait le Quart Nord. C'était une sorte de mini état-major. Jusqu'au jour, j'ai croisé des collègues qui travaillaient à l'unité d'investigation de secteur Nord. Et puis voilà, je leur dis, oh les gars, j'aimerais bien faire ce métier. Et puis j'ai été pris. Et là, il y a un deuxième chemin qui s'est ouvert à moi. L'enquête judiciaire, la fameuse. Alors là, c'est la double gifle. Très rapidement, 2 ans d'enquête judiciaire, voilà, j'ai compris que c'était du vent tout ça, en fait. On faisait du vent. Groupe flagrant délit, on appelait ça un groupe flag. On était sur le secteur nord de Marseille, on était 8. Et on arrivait le lundi matin, on avait peut-être 20 mecs au frigo, comme on disait, 20 mecs en garde à vue, hein, on s'occupait des 20. Hein. Et puis bon, on était soudés, il y avait une très bonne ambiance. Et pourtant, on travaillait sur du sombre hein, à longueur de journée. Et dans ce métier-là, vous pensez être au fond, et en fait, non, il y a toujours plus profond dans le sombre. Vous voyez la mort, et dans des conditions extraordinaires, et malheureusement à tout âge. Et une fois que vous avez fini, que vous rentrez chez vous, là, ben vous restez avec votre album photo. Donc, il y a vraiment intérêt à souffler. Donc voilà, c'était l'humour. J'étais quand même assez clown, hein, j'ai toujours aimé faire rire, donc il y avait une très bonne ambiance. Et on était bien, on était une bonne équipe. Mais voilà, pour moi, la haute hiérarchie, c'était après mon commandant. Donc ça a commencé au commissaire divisionnaire et au directeur. Où là, on est dans la politique pure. Et là, c'était l'époque de la politique du chiffre. Et ça commençait à m'énerver parce que moi, j'aimais les enquêtes judiciaires. Et là, c'était, on veut des interpellations, mais on veut des affaires élucidées. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme affaire très simple à élucider ? Eh bien, le petit jeune qui a une barrette de shit sur lui, par exemple. On me demandait de faire 10 affaires de 10 jeunes qui étaient interpellés avec une barrette de shit. Pourquoi ? Parce que ça faisait 10 interpellations et 10 affaires élucidées. Beaucoup de ventes pour pas grand-chose. Sauf que sur mon bureau, j'avais d'autres affaires bien plus graves. Des affaires de violence, notamment, avec des ITT de plus de 8 jours, vous voyez. Ben, je pouvais pas travailler dessus parce qu'on me demandait de faire ces 10 jeunes-là. Et puis cette affaire-là, quelque part, si je la sortais, on allait interpeller un gars, on aurait fait des réquisitions judiciaires. Je sais pas, ça coûte du fric, tout ça, l'ADN, les traces papillaires, ça coûte du fric. Pourquoi ? Pour une interpellation ? Mais non, t'en as 10 là, ils sont contre le mur, ils sont pas gentils là. C'est pas plus simple. Eh ouais, c'est plus simple pour tout le monde. Mais pas pour moi, vous voyez ? Là, psychologiquement, ben, mon idéal était entaché là. Je suis pas rentré dans les flics pour ça, moi. Oui, j'étais pas utile. J'ennuyais même les honnêtes personnes. C'est plus qu'être inutile. Il y a encore un monde là. Et ouais. Et normalement, je vous le dis, les policiers, tous, on aurait dû arrêter à cette époque de mettre des PV, de cautionner cette culture du chiffre. On aurait dû arrêter. D'aller uniquement sur l'appel 17 pour sauver des gens qui étaient dans la merde, mais point. Je vais vous dire pourquoi les policiers contestent pas. Vous savez pourquoi ? On a tous notre petit galon à prendre. On attend tous notre petite mutation. On attend tous d'être tranquille à la retraite. On attend tous notre petite lumière, notre horizon. Là. Et on voit petit. Et on est capable de faire beaucoup de choses pour gagner 200 euros de plus par mois. Écoute, moi je veux pas être emmerdé. Je vais faire mon travail. Et puis c'est tout. Hein. On accepte tout, quoi, à la fin. Pour être tranquille et pour être à l'aise dans son mensonge, il faut arriver à se mentir à soi-même, en fait. On reste parce que ça devient de l'alimentaire et on est enfermé. On ne peut rien faire d'autre. Voilà, moi j'ai jamais vu un collègue heureux dans sa vie de flic. Et le problème dans ce métier, c'est que dès que vous commencez à réfléchir, c'est le début de la fin. Hein. en fait. Vous êtes un fonctionnaire, vous êtes là pour fonctionner. Hein. Point. Si vous réfléchissez, il y a deux solutions. C'est soit vous quittez la police, et soit vous finissez par mâcher le canon d'une arme. Suicide ou alors problème psychologique, problème d'alcool, problème de drogue, problème de... on finit mal. C'est pas un métier dans lequel on va dire « Oh les gars, je vais pas bien, vous allez passer pour qui ?» C'est un métier un peu machiste, hein, faut le dire. On va se foutre de votre gueule. Hein. Il fallait pas montrer son point faible, surtout pas. Dans notre groupe, on avait des femmes, on avait Joss et Marie. C'était les mamans du groupe. Quand ça allait pas, on allait voir Joss. On pouvait pas le faire avec des mecs. À mon époque, il y avait entre 50 et 52 policiers qui se suicidaient dans l'année. Un suicide par semaine. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 22 suicides depuis le 1er janvier. Ça veut dire un policier qui se suicide tous les 4 jours. Et à une époque, il y a eu une vague de suicides. On nous a octroyé un numéro, un 0491. On nous l'a mis contre le mur de notre service. Si vous avez un problème psychologique, il y a une permanence. Moi, j'ai un collègue, il a appelé. Hein. Bon, déjà, le soir, ça marchait plus. Et le week-end non plus. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une femme formidable, d'avoir des enfants, d'avoir des amis. Mais un collègue qui n'a pas ça, qui vit ce métier, qui sent l'enfermement, qui est différent, qui d'un coup se met à réfléchir. Ben peut-être que s'il a un accident de vie, s'il a un enfant malade, s'il a un divorce, s'il a voilà, quelque chose qui se passe dans sa vie et qui va commencer à lui faire plier un genou, je vais vous dire, ça peut aller très vite. Hein. Moi, mon malaise, c'était le manque de reconnaissance dans ce métier. Tu n'es que matricule, tu dois rendre compte au parquet d'une affaire. Hein. Mais psychologue, tu te le payeras, ou tu verras quand tu auras 2 minutes. J'étais pas bien, j'étais tendu, j'étais énervé. Et je me disais, mais je vais pas finir comme ça. Je vais pas finir. Déjà, je voulais pas ressembler aux collègues qui partaient à la retraite. Ils ressemblaient à des mecs aigris et malheureux dans leur cœur. Non, c'est un métier qui vous bouffe. Donc je me suis dit, je ne veux pas rester là. Donc, vous avez été policier pendant 18 ans, vous partez de là, vous faites quoi? Vous allez faire vigile dans un magasin? Non. Je disais que je voulais partir à tout le monde, mais tout le monde rigolait. Et en plus, j'étais quelqu'un avec beaucoup d'humour, donc je faisais rire tout le monde sans arrêt. Et je disais, je vais me casser les gars. Oui, oui. Mais j'étais très bien dans ma tête parce que j'avais pris la décision de partir. Maintenant, je vais faire quoi? Donc j'ai intégré une banque spécialisée dans la création et la gestion de patrimoine et j'ai accepté de gagner le SMIG et d'être rémunéré un peu plus si jamais je devais vendre des produits financiers. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Mais la banque m'a rappelé en me disant « On ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas le bac. Et pour vendre des instruments financiers, il faut le bac. » Ah, mince. Donc j'ai fait rire tout le monde en disant « Les gars, ils ne me prennent pas parce que j'ai pas le bac. Ben, je vais passer un bac. » Donc j'ai passé un bac dans les 6 mois en VAE, en faisant une VAE. Et du coup, j'ai eu mon bac. Donc je suis retourné voir le directeur de la banque avec un bac en poche et je lui ai dit « Voilà, on y va maintenant. » Je suis retourné au service, j'ai dit « Les gars, j'ai trouvé. » Je leur ai expliqué, ils m'ont dit « Va voir un psy. Yann, tu es fou, tu es fada ou quoi? Tu vas où là? Tu vas arrêter la police pour gagner le SMIC dans une banque là? Mais tu es fou quoi ?» Donc je suis allé voir le psy. Et elle m'a dit « Mais vous avez raison de partir. » En gros, j'ai compris que c'était pas moi le fou, hein. C'était les autres hein, de rester. On est très peu à démissionner. On part pas de la police. On part pas, on parle pas, et on vous aide pas. Hein. Ce devoir de réserve n'est pas là pour rien. Ça. Et c'est vrai que quand j'en suis parti, je l'avais dit à des collègues, j'ai un peu l'impression d'être dans un bateau qui coule et d'être le rat qui part en premier. C'était l'impression que j'avais, j'ai presque honte. Mais il fallait que je parte. Voilà. Et là aujourd'hui je me rends compte et tous me le disent hein, t'as bien fait de partir Yann hein, parce que c'est empiré, ça va pas dans le bon quoi. Donc je suis heureux d'en être parti et j'avais vu juste en fait.
Corruption and iniquity. Police are shooting.